Georges de Zimmerman, vous êtes là-haut ?
France Culture.
Désolée, Georges. En fait, on était dans les escaliers, on n'avait pas l'indication de l'étage.
Je vous sers un café.
Le Book Club.
Vous pouvez parler, hein ?
Non, merci.
Vous avez peur de votre propre micro ?
Dans la bibliothèque de Georges Didier Huberman.
Moi, je suis contre l'idée que les techniciens ne
le fassent. Non, merci. Plus fort.
Non, merci. Je n'ai pas de café, merci.
Marie Richet.
Moi, très volontiers, Georges.
D'accord.
En 2023, une exposition à l'Institut des mémoires de l'édition contemporaine faisait découvrir aux visiteurs un immense fichier de travail commencé dès 1971 par Georges Didier Huberman, composé de plus de 148 000 fiches et qui recueille le plus précieux de ce qu'il a lu, vu et aimé. Lorsqu'on visite l'appartement qui lui tient lieu de bureau et de bibliothèque personnelle, très vite, il dit « De toute façon, le plus important, ce sont les fiches. » Cet agencement de la pensée, cette ponction, ce prélèvement dans les lectures. Mais c'est beau aussi de voir les couvertures des livres complets réparties selon des questions. Autant d'étagères, autant de points d'interrogation ou d'intensité. Avec deux lignes de fuite, la mort et l'histoire, toutes deux dans des recoins, mais bien là. Visiter la bibliothèque de Georges Didier Huberman, c'est parler des livres des autres, mais c'est aussi penser aux bibliothèques des autres. Celle d'Abby Warburg, celle de Jacques Derrida, celle de Walter Benjamin, et toutes les bibliothèques publiques, chéries et fréquentées, dont il dit qu'elles sont les plus importantes, tant elles permettent le partage. Suivons donc Georges Didier Huberman, on a rendez-vous avec quelques anges et avec des phares. C'est pas mal.
Bon, le principe... Alors, déjà, merci beaucoup de nous recevoir chez vous.
Avec joie.
Et le principe de l'émission, c'est de demander aux personnes qui nous accueillent de nous montrer où sont les livres dans leur maison. Sauf qu'on arrive chez vous, Georges Didier Huberman, et on se demande plutôt où il n'y en a pas.
Où, oui.
Où sont les humains.
Et moi, je suis le locataire et les propriétaires,
ça,
ce sont les
ça,
livres.
Oui,
c'est...
Comment on va faire, vu l'étendue de ce que je vois et la beauté, je
sais. Presque 120 mètres carrés comme ça, oui. Oui.
Il faut non, que je vous...
D'abord, je veux vous dire quelque chose, peut-être. C'est que, bon, une bibliothèque privée, c'est rien du tout. La vraie bibliothèque, c'est la bibliothèque publique. Moi, quand j'étais petit, j'allais à la bibliothèque municipale. C'est là que j'ai pris mes premiers grands fous rires en lisant des choses. Exercice de style de Raymond Queneau.
C'est vrai,
j'étais écroulé de rire.
Oui, mais quel âge ?
Ben, j'avais 14 ans ou 13 ans,
ouais,
quelque chose comme ça. Après, comme étudiant, j'étais tout le temps à la bibliothèque universitaire à Lyon, qui malheureusement a brûlé. Et puis, pour moi, la bibliothèque, elle est publique. C'est toujours mieux une grande bibliothèque. Donc, j'ai appris à être historien de l'art dans les grandes bibliothèques d'histoire de l'art allemande, dont certaines sont en Italie. Et puis, évidemment, la bibliothèque de Warburg, qui est une merveille absolue. Et puis là, j'ai 71 ans, je vais le plus possible à la Bibliothèque nationale, etc. Donc une bibliothèque privée, c'est un tout petit bout. J'ai écrit des livres entiers à la BPI, au milieu des clochards, des gens qui draguent. J'adore, c'est magnifique. Donc le fait que les livres soient pour tout le monde, et surtout en libre accès, c'est pour moi une condition nécessaire. Au Centre Pompidou, la BPI, c'est le plus important.
Et alors, qu'est-ce qui demeurerait intéressant alors ? Si vous deviez nous encourager dans notre entreprise et nous dire quand même c'est pas mal Marie et votre équipe de faire cette émission là, pourquoi c'est intéressant d'aller voir des gens et de regarder à quoi ressemble leur bibliothèque, quelle qu'en soit la taille, parce qu'on va voir des gens qui ont juste 10 bouquins en pile dans leur chambre.
Oui, pourquoi pas, pourquoi pas ça, absolument.
Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans une bibliothèque privée?
Alors, c'est une belle question. Ce qui est intéressant dans une bibliothèque privée, c'est que vous vous mettez à hauteur de vos yeux ce avec quoi vous dialoguez en permanence. Ben voilà, par exemple. C'est-à-dire que vous organisez votre espace privé. Alors, on peut commencer si vous voulez. Donc là, on est dans une espèce de salon. Enfin, je ne sais pas, c'est mon bureau en tout cas. De toute façon, je vis ailleurs. Ma vie familiale, elle est maintenant ailleurs.
D'accord.
Donc ce que vous avez là, c'est pas toute ma bibliothèque, parce que j'en ai quand même mis un bout là-bas, tellement il y en avait. Donc là, c'est devenu un espace très agréable, mais peut-être pas habitable pour un enfant, par exemple, qui aurait envie d'avoir ses propres livres, etc. Voilà. Donc, ici, on est dans une pièce assez grande où il y a, la théorie des images. C'est-à-dire un petit peu le cœur de ce qui m'intéresse. Donc, quand je disais à hauteur Dieu, donc vous avez par exemple à hauteur Dieu, là, tout Warburg, là, ça va jusque-là, et puis tout Benjamin, ça va jusque-là, par exemple. Tout Freud, ça va jusque-là, et tout Georges Bataille, ça va jusque-là. Donc, je suis dans la théorie de l'art, la théorie de l'histoire de l'art, la phénoménologie, Deleuze, tout ça qui concerne les images. La psychanalyse des choses visuelles, l'anthropologie ici, à droite et à gauche. Là, il y a un mur uniquement dédié aux théories du temps. Parce que pour moi, le temps et les images, ça va ensemble.
D'accord.
Devant l'image, devant le temps. Voilà.
Et est-ce que ça produit quelque chose sur votre travail ou sur cette géographie-là ? Derrière moi, Warburg, Deleuze. Devant moi, Freud, Bataille. Le temps à gauche, psychanalyse à droite.
Bien sûr que ça produit. Ouais. Bien sûr. Bien
ça
sûr.
Spatialise les choses.
Complètement. De toute façon, la pensée, c'est une orientation. Donc, oui, c'est très, très important. Maintenant, j'aime la redéballer et la re-ranger, ma bibliothèque, très souvent. Très souvent. Mais ça, ce que je vous dis là, c'est assez stable.
D'accord.
Voilà.
Donc, si on essaie de répondre à ma question, qui répond à votre première remarque, à savoir, bon, finalement, quel intérêt de faire l'exercice que nous faisons aujourd'hui, Georges Duberman ? Première réponse, observer une spatialisation, un agencement possible des ressources de la pensée.
Oui, habiter dans ses livres. Voilà. On n'a pas un livre. Il y a toujours, il n'y a jamais un livre. Il y a toujours plusieurs livres.
Voilà. Et leur rapport.
Donc, là, c'est un grand mur de travail, mais il y en a d'autres comme ça. C'est justement des photocopies de ce que j'ai fait dans des bibliothèques publiques sur des livres que je ne pouvais pas acheter. Et où il y a une sorte de réduction de ce qui m'intéresse, par exemple, dans un donc c'est énorme. Hein. Là, au fond...
Que je comprenne bien.
Ouais.
Ça classe des photocopies. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le livre entier,
oui.
Vous avez regroupé les photocopies faites dans la bibliothèque publique qui réduisent ce qui vous intéresse.
Je me suis fait depuis très longtemps, même dans ma jeunesse, une sorte de, justement, de carte d'orientation qui organise ma bibliothèque, mon ordinateur, mon iconographie, mes fiches. Le plus important, c'est les fiches. Le plus important, c'est les fiches. C'est avec ça que je travaille. Mmh. Et ce classement, il part de la question de du savoir d'abord, de la matière, du lieu et du corps. Voilà, tout ce qui m'intéresse tourne autour de ces choses-là. Donc voilà, je vous parle d'une sorte de classification comme ça, mais c'est même pas une classification, c'est un principe d'orientation. Donc ça, c'est des choses sur l'iconographie du savoir, lorsque le savoir devient image. Tout ça, c'est le savoir-image. Ensuite, le lieu. La matière, plutôt la matière avant, vous voyez.
De l'air, de l'eau.
L'air, voilà. L'espace, les lieux.
Des lianes.
Et ensuite, ça commence le corps. Alors là, donc ça c'est toujours dans la matière, vous avez les questions de, par exemple, de chromatisme. Qu'est-ce que c'est les teintes, les pierres, les pierres colorées, les pigments, la technique de la peinture, etc. Vous voyez ? Tout ça c'est les couleurs. Et puis là, on commence le corps. Alors le corps animal. Il y a toute une chose sur les taureaux, par exemple. Et puis le corps humain. Ça commence le corps humain. Alors là, c'est la plus grande section, on pourrait dire, puisqu'il y a tout ce qui concerne le corps anatomique. Vous voyez, blood.
The heart.
Bon, ben voilà. Et puis ça continue là.
Ça veut dire aussi qu'on peut dire, au passage, Georges Lieberman, que dans tout ce que j'aperçois, c'est tout le temps, il y a plein de langues.
Il y a toutes les langues.
Oui.
Ben, même quand on ne les comprend pas bien, les langues étrangères, il faut les utiliser. Il n'y a rien de mieux qu'un mot étranger au milieu d'un texte. Adorno disait, le mot étranger dans un texte, c'est le juif de passage. Voilà. Alors là, dans ce cabinet...
Comment je fais là?
Voilà, on est toujours dans la suite du corps, le visage, vous voyez, la grimace, persona, le portrait, tout ça c'est sur le portrait. Et puis ensuite, la question de l'expression des émotions, hein, qui va sur le corps et le visage, tout ça c'est sur les émotions. Et puis on arrive à la question de la douleur, de la mort... Et tout ça, c'est la femme, la question féminine, féministe, tout ce que vous voudrez. Voilà. Vous savez que je m'intéresse beaucoup à l'iconographie de ce que Warburg appelait la nympha. Voilà. Et je n'ai pas fini avec ça. Donc, je vais continuer. Donc, il y a l'iconographie de Cléopâtre, il y a les livres de Paul Preciado, il y a des tas de choses. Voilà. Vous voyez ? Ensuite, ça c'est de la philosophie générale, donc par exemple si il y a tout Deleuze ici, mais le Deleuze qui concerne la peinture, il est là-bas. Ici c'est la philosophie politique, c'est tout un mur, voilà.
Ça c'est pour dire qu'ils sont à vous ?
Ça, c'est un ex-libris que je me suis fait, je pense, à l'âge de 10 ans, 13 ans. J'avais taillé dans une gomme et ça fait un petit tampon. Voilà.
Mais
comme,
ça raconte...
comme ça, si vous me piquez un livre, je vais chez vous, je saurai tout de suite si... non, c'est une manie et puis je l'ai gardé.
Mais ça raconte quand même que depuis la plus tendre enfance, il y a
une appropriation. Oui, dès que j'ai gagné un peu d'argent, je travaillais pendant les vacances chez un disquaire, et bien je m'achetais que des livres. Des disques un peu, mais surtout des livres. Je me suis acheté des livres très très tôt. J'aimais les couvertures de... Je ne sais pas s'il y a des restes de cette période ici. Pas ici, mais... Voilà.
Mais avec un projet, parce que ça semble tellement, tout à l'heure, tout ce que vous disiez de vos moments en bibliothèque publique, de vos moments d'étudiant, de ce que vous avez conservé, des photocopies. C'est-à-dire qu'il y a quand même une façon
de
mettre
en place les choses. D'abord, les enfants sont collectionneurs.
Oui.
Et les enfants sont curieux.
Oui.
Et j'adore apprendre des choses nouvelles. Ouais, c'est pour ça aussi que je suis spécialiste de rien du tout. Enfin, je me pense comme spécialiste de rien du tout. Donc, tout à coup, je travaille sur la Renaissance italienne, et puis tout à coup, je travaille sur Georges Bataille, et les gens comprennent pas très bien pourquoi. Et tout à coup, je travaille sur les images du Sonderkommando d'Auschwitz. Les gens sont furieux. Et tout à coup, vous voyez, je me balade.
Mais tout en organisant votre savoir, Georges Lieberman.
Ah oui, bien
c'est
sûr.
Il y a
alors ce qui, par exemple, ce qui m'a bouleversé dans la bibliothèque d'Abi Warburg et que j'ai trouvé plus tard dans le texte de Ernst Cassirer qui raconte son expérience de cette bibliothèque, c'est de voir que la bibliothèque c'est pas un ensemble de c'est pas une collection de livres. C'est une sorte de topographie de problèmes. Mmh. C'est-à-dire, vous êtes là, et là, vous êtes dans les problèmes.
Dans les questions.
C'est une façon de poser les questions à travers, quand même, des gens qui ont réfléchi à ça depuis des milliers d'années. Mmh. Donc, voilà. Ici, c'est tout ce qui concerne la littérature. Alors, évidemment, pour ce qui concerne les romans et tout ça, la pièce est trop petite. Donc, il y a toute une section à la cave, malheureusement. des romans et de la littérature. Et sur ce mur-là, en face, c'est la théorie de la littérature. C'est des gens qui ont beaucoup compté pour moi.
Ils se font face.
Roland Barthes, Starobinsky, Auerbach, je sais pas. Vous voyez des gens comme ça. Bon, ensuite, là, on arrive dans une deuxième zone de l'appartement qui est vraiment l'histoire de l'art. Alors ça, c'est les artistes, je dirais, depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. Par ordre alphabétique, c'est la seule chose qui est classée par ordre alphabétique. Je déteste l'ordre alphabétique
en
général. Eh ben parce qu'il est complètement arbitraire, alors que c'est beaucoup plus intéressant de classer les choses par, justement par problème, par question. Vous enchaînez les questions.
Mmh.
Voilà, il y a... Bah, je peux pas vous le montrer là. Tout ça derrière, il y a encore deux bibliothèques concernant principalement la Renaissance. Voilà, tout ça, c'est le Moyen-Âge. Donc,
pour nos auditeurs et auditrices, c'est comme si c'était un placard de vêtements, quoi. Enfin, ça a dû être peut-être un placard de vêtements.
Ça aurait dû être un placard de vêtements, ouais. Mais voilà, iconographie chrétienne. Allez, courage. Courage, avec la perche. Tout ça, c'est le début du Moyen-Âge. Et puis, ce double mur, là, il y a deux épaisseurs. Donc, c'est l'histoire. Donc,
c'est marrant, on arrive au bout. Et c'est l'histoire.
C'est il y a deux points... Il y a deux points de fuite, hein, c'est le petit endroit que je vous ai montré sur la mort,
ouais.
Et ça c'est sur l'histoire politique, l'histoire donc qui est un peu arbitraire de séparer de la philosophie politique, mais quand même, voilà. Donc là c'est un livre sur les dessins des enfants syriens, migrants, etc. Et puis ces deux parties, il y en a une en plus derrière, c'est, j'appellerais ça, disons, comme on dit dans les bibliothèques, judaïka. Donc c'est ce qui va des réflexions de Scholem, par exemple, sur la Kabbale, jusqu'à la question de la Shoah. Voilà.
Deux points de fuite à cette bibliothèque.
Au moins.
Au moins.
Oui. Voilà. Mmh.
Ma question, quand je parlais du partage, c'était l'idée que ce lieu, il soit aussi dessiné en conscience, quoi, que vous le faites comme une œuvre progressive, Georges Duberman. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est pareil
que d'avoir...
Et en plus, j'ai envie que ça soit compréhensible par quelqu'un,
voilà,
en mon
ça,
absence.
Cette tête-là.
Tout à fait. Tout à fait.
Ça a une tête de partage, quoi. Enfin, de partageable, voilà.
D'ailleurs, je vais vous dire, je ne sais pas ce qu'elle va devenir, cette bibliothèque.
Vous vous posez cette question?
Bien sûr, ben oui, évidemment. Vous pensez jamais à la mort,
vous? Ah, si, si.
Ah,
ouais. J'osais pas physiquement vous la poser, mais... qu'est-ce que vous faites quand vous vous demandez ce qu'elle va devenir, cette bibliothèque? Vous avez pas de... Voilà, vous avez pas de... d'idées ou d'envie?
J'ai un grand-fils que ça intéresse pas, je pense, toujours, mais tout peut changer.
Tout peut changer.
Et j'ai un petit garçon que ça pourrait intéresser, mais je ne sais pas non plus.
Mmh.
Aucune idée.
Mmh.
Mais c'est lourd, hein. C'est lourd, une bibliothèque. Mmh. C'est vraiment lourd.
À tout point de vue, vous voulez dire?
Ah oui. Oui, mmh. Oui, oui, je me suis cassé le dos avec ça. Mais oui, c'est lourd, c'est lourd. Voilà. Je suis triste, par exemple, que la bibliothèque de Derrida soit partie comme ça, quelque part dans une université américaine. Voilà, je sais pas.
Est-ce que vous avez, parce que vous avez parlé de l'importance de la bibliothèque d'Abbé Warburg, là vous évoquez celle de Jacques Derrida, est-ce qu'il y a eu comme ça des bibliothèques vraiment, au sens de ce qu'on vient de traverser avec vous, qui ont été importantes, même dans des amis, de la famille, quelque chose où vous vous êtes promené vous aussi, quoi?
Quand j'étais enfant, il y avait deux espaces très, très distincts. Il y avait l'atelier de mon père, qui était peintre, avec des livres sur le surréalisme et donc fatalement sur l'érotisme. Donc il y avait par exemple Les Larmes d'Eros, qui, le jour où j'ai trouvé ça, C'est un choc pour la vie, évidemment, de bataille. Et puis, il y avait l'autre bibliothèque, plutôt maternelle, où il y avait des romans et des livres sur la Shoah. De tout ça, je n'ai extrait, je ne possède que deux volumes.
Ah
c'est
oui.
Tout. Oui.
Par choix.
C'est comme ça. C'est comme les choses familiales s'arrangent ou ne s'arrangent pas. You are needing a friend for to follow. For to fend, and I haven't got a clue if I'm getting through to you, my lighthouse in the violent moonlight. I am searching the tide in a vessel in the storm, and you're the kind host in the port, my lighthouse, and we'll be there to ride.
France Culture, le book club, dans la bibliothèque de Georges Didier Huberman.
Bon, il y a donc cet exercice à la fois impossible mais momentané.
Marie Richeux.
Qui est le choix de 4 textes, c'est ça ? Ou 5 textes que vous nous avez envoyés. On s'assoit et on les regarde ?
Oui. Verre d'eau, ça je crois que c'est à moi.
Oui, c'est
à vous. Ce que je peux dire en départ, c'est que... Je vous ai choisi ces textes uniquement pour ce que j'appellerais leur actualité, mais c'est pas un très bon mot. Mais c'est juste parce que en ce moment, voilà, je vais vers ça. Mm. Parce que si on me demandait quels sont tes écrivains préférés,
c'est okay.
ça me semble totalement.
C'est en ce moment.
Ça va de Lispector à. Il y a tout, et il y a surtout cette découverte d'un nouvel écrivain. Là, je viens de recevoir le livre de Sylvain Prudhomme. Je suis très content. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, donc je vais pas. Il s'agit pas de faire un concours de beauté, quoi.
Non.
Surtout pas. Donc, comment vous dire, je suis très bouleversé par ce qui se passe politiquement autour de moi. Voilà. On me dit, voilà, vous êtes spécialiste des images, tenez, il y a eu une image par intelligence artificielle qui a reproduit un camp de réfugiés palestiniens par ordinateur. Vous voulez nous commenter ça ? Non, mais c'est n'importe quoi. Ce qui est bouleversant, c'est pas ça, c'est la situation. Alors, ma réaction notamment à cette situation Israël, Hamas, Gaza, voilà. Il m'a semblé déceler là-dedans quelque chose d'absolument délétère et qui a l'air complètement évident pour beaucoup de philosophes, c'est que la théologie et la politique, c'est la même chose. C'est que les choses sont liées. Vous savez que, par exemple, Carl Schmitt, le grand théoricien fasciste, hein, pour le dire très simplement, de la politique, disait que tous les concepts politiques sont des concepts théologiques, sécularisés. Ça plaît beaucoup à beaucoup, toute une frange de l'extrême gauche, à Agamben, par exemple, avec qui j'ai eu beaucoup de, disons, des relations d'amitié, de dialogue, et puis ensuite de désaccord. Enfin, vous voyez, c'est toute une histoire. Je me suis dit, et puis cette pensée philosophique qui prend un ton apocalyptique. Mais c'est quoi l'apocalypse ? Parce que l'apocalypse, elle est partout. Les forêts brûlent, tout est foutu, etc., etc. Donc j'ai relu l'Apocalypse, qui est un texte absolument magnifique. Et plus je le relis, en fait, plus je le déteste. Donc mon premier texte, là, c'est un texte de D.H. Lawrence, l'auteur de L'amant de Lady Chatterley, un auteur que j'aime beaucoup, un auteur adoré par Gilles Deleuze, préfacé, ce texte-là que je vais vous lire, non, je vais vous lire des extraits, il est préfacé par Gilles Deleuze de façon admirable, parce que Deleuze dit, il y a Lawrence et il y a Nietzsche, et c'est la véritable vivante critique des conformismes théologiques. Alors, je vous
le dis. Et c'est quoi le texte de D.H. Lawrence que vous avez choisi ?
Il s'appelle donc Apocalypse, tout simplement. C'est son dernier livre. Et voilà. Apocalypse veut simplement dire révélation, quoi qu'il n'y ait rien de simple là-dedans, puisque les hommes se sont creusés la tête depuis près de 2000 ans pour découvrir au juste ce qui est révélé dans toute cette orgie de mystification. L'Apocalypse m'est antipathique, et cela depuis ma plus tendre enfance. En premier lieu, un manque total de naturel rend ces somptueuses métaphores détestables. Alors il fait une citation. « Devant le trône, comme une mer limpide, semblable à du cristal, au milieu du trône et l'entourant, quatre animaux couverts d'yeux par devant et par derrière, etc. etc. » Et Lawrence continue. « Un tel passage irritait et ennuyait mon âme enfantine à cause de cette pompeuse absence de naturel. Si c'est de l'imagerie, c'est une imagerie qui ne peut être imaginée. Comment quatre créatures pourraient-elles être couvertes d'yeux tout autour et au-dedans, et comment pourraient-elles se tenir au milieu du trône et l'entourant ? Elles ne peuvent être à la fois ici et là, mais l'Apocalypse, c'est comme ça. Pire, une grande partie de cette imagerie est totalement dénuée de poésie et arbitraire. Certaines images sont même horribles. Tous ces gens qui patauge dans le sang, ce cavalier qui trempe son vêtement dans le sang, et les autres qui se lavent dans le sang de l'agneau, et des expressions comme la colère de l'agneau, qui sont, elles, complètement, ouvertement ridicules. Conclusion provisoire, parce que c'est un livre entier, donc je vous lis que quelques lignes. C'est très agréable de vouer ses pires ennemis à la destruction et au malheur, et de gagner soi-même en splendeur. Cela ne se produit nulle part de manière aussi glorieuse que dans la Révélation, que dans l'Apocalypse. Fin de citation de ce livre. Ce qu'il veut dire par là, c'est que les religions s'inventent des vengeances suprêmes. Et l'Apocalypse, c'est une vengeance suprême, parce que, disons que l'Église chrétienne se venge du pouvoir impérial païen, romain, et elle se venge du pouvoir de la loi hébraïque. Elle se venge. Donc elle imagine une fin des temps avec des anges qui débarquent. Et il y en a par exemple qui tue, il y en a un qui tue un tiers de l'humanité, quoi. Ça, voilà, ça choque personne. Tout cela est lié en fait à une sorte de constitution de ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire la théorie logie. Ça veut dire donc le logos, le discours rationnel, la science, le logos de la fin, des fins. Les fins à la fois dans les deux sens. Qu'est-ce que c'est les fins? Quelles sont les fins de l'humanité? Et qu'est-ce que c'est la fin de l'humanité au sens où après, eh ben, les gentils seront ressuscités et les méchants brûleront dans l'enfer. Voilà.
Mais il y a aussi quelque chose qui m'intéresse dans le préambule que vous avez fait à cette lecture, Georges D. Huberman, c'est il m'est difficile de penser ce qui arrive. Et donc tout singulièrement le pire, là, en l'occurrence, ce qui se passe notamment dans la bande de Gaza. Et la ressource, enfin, c'est, du coup, D.H. Lawrence, ça devient quoi? Ça devient un outil? Ça devient un point d'appui pour penser? Ça sert à quoi?
Alors, D.H. Lawrence nous sert à dire arrêtez avec votre ton apocalyptique à propos de tout et de n'importe quoi. Arrêtez. Regardez ce qu'on peut faire. Interrogez votre désir, c'est-à-dire interrogez votre désir de futur. Ne dites pas que le futur est foutu. Ne dites pas que la tradition doit être interrompue. Benjamin, auquel je viens à l'instant, Benjamin a une phrase, moi, qui me guide beaucoup. Il dit « Être révolutionnaire ou radical, c'est pas casser une tradition. C'est, dit-il, une phrase sublime, arracher la tradition au conformisme, je mettrais ça au pluriel même, lui il le met pas, mais au conformisme qui est tout le temps en train de le subjuguer, la tradition. Vous avez une tradition, il n'y a rien de plus beau que la tradition de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de la théologie, mais c'est magnifique, c'est très beau, c'est de l'imagination. À partir du moment où ça devient un conformisme, c'est dramatique. Voilà, il faut pas rompre avec les traditions, il faut arracher les traditions au conformisme.
On va vers Benjamin.
Ouais. Alors, Benjamin, je voudrais peut-être lire deux textes coup sur coup de Benjamin pour montrer aux auditeurs qu'un philosophe réputé très difficile, et il est très difficile, hein, et il fait des textes complexes et d'une exigence qui demande beaucoup de travail, voilà. C'est aussi quelqu'un qui était complètement ouvert aux enfants et qui pensait que quand je parlais de la tradition à l'instant, ben la meilleure tradition, c'est quand vous racontez une histoire à votre enfant avant qu'il s'endorme. C'est ça la tradition. C'est ça d'abord la tradition. La tradition, c'est pas les dogmes. La tradition, c'est les histoires, c'est les contes. Et il y a ce magnifique texte de Benjamin où il fait l'éloge du conteur. Et le conteur, voilà. Mais donc, je lis une des thèses sur le concept d'histoire, qui est son dernier texte, 1940. Ce qui est intéressant, c'est qu'un philosophe, aussi exigeant soit-il, a besoin de regarder une image pour dire ce qu'il a à dire. Il existe un tableau de clés qui s'intitule « Angelus Novus ». Il représente un ange qui semble sur le point de s'éloigner de quelque chose qu'il fixe du regard. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C'est à cela que doit ressembler l'ange de l'histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d'événements, il ne voit lui qu'une seule et unique catastrophe qui sans cesse amoncelle ruine sur ruine et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. Mais du paradis, c'est-à-dire en fait de là d'où il vient, souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes si violemment que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s'élève jusqu'au ciel. Cette tempête, c'est ce que nous appelons le progrès. Alors peut-être avant de lire l'histoire pour les enfants, dire juste une chose, c'est que ce texte est écrit pour Benjamin on pourrait dire, quelques mois avant son suicide, parce qu'il est piégé par la Gestapo, par les frontières fermées, par tout ça. Et quelques mois après, une gigantesque déception. Il ne faut pas oublier que Benjamin, quand il était jeune, il aurait dû faire la guerre de 14. Mmh. Il s'est enfui il s'est mis en exil en Suisse pour ne pas participer à la guerre de 14. C'est quelqu'un qui a subi, en quelque sorte, deux guerres mondiales atroces. Donc, en 1939, alors qu'il est quand même proche de ses amis communistes, de Bertolt Brecht, de Adorno, etc. Eh bien, non seulement Staline exécute les anarchistes pendant la guerre d'Espagne, dissout les brigades internationales, et puis finalement, le pacte germano-soviétique, à l'été 1939. Vous imaginez, pour quelqu'un qui croit au communisme, le pacte entre Hitler et Staline, c'est une catastrophe totale. Donc, il a des raisons de parler de grandes catastrophes. Mmh. La question de ce texte qui est magnifique, pourquoi un ange? Pourquoi Paul Klee, avec ce sourire? Vous savez que c'est une œuvre qu'il avait achetée lui-même pour très peu d'argent, d'ailleurs, à l'époque, en 1921. Et la question, c'est comment se forme l'espoir? Qu'est-ce que c'est un futur possible avec une situation pareille? Voilà. Et comment celui qui fait de l'histoire, celui qui étudie le passé, qui étudie le drame baroque, qui étudie Baudelaire, enfin bon, ça c'est Benjamin, hein, vous voyez, comment celui-là, il a une force politique éventuelle pour penser l'espoir? Voilà.
Par du vent, par de la tempête, par du...
Restaurer l'énergie du désir. D'ailleurs, cet ange nouveau, là, Angelus Novus, c'est une sorte d'enfant. Si vous voyez tous les séries d'anges dessinées par Paul Klee, il en a fait des dizaines, hein. C'est des gosses. C'est des gosses, c'est des clowns, ça grimace, c'est des automates, c'est très rigolo, c'est très démonique aussi, pas démoniaque, hein, mais démonique, c'est des petits démons comme ça, vous voyez. Et ça plaît beaucoup à Benjamin. Et ça s'adresse aux enfants. Parce qu'en fait, les enfants, ce sont les dédicataires de toute pensée du futur. Voilà.
Deuxième texte
de Benjamin. C'est un texte très bizarre. Ça s'appelle « Une histoire comique à l'époque où il n'y avait pas encore d'homme ». Donc en fait, c'est une histoire qui s'adresse aux enfants, sans doute à son enfant, à lui. En ce temps-là, la terre n'était pas encore ferme et tout à fait marécageuse, comme un pétrin trempé. Il y eut d'abord un arbre immense qui savait courir. Les premiers arbres, en effet, pouvaient courir, comme les animaux. L'arbre géant partit se promener et il allait son chemin. Vous voyez, c'est le même auteur que celui qu'on vient de lire sur l'histoire. Tout d'un coup, justement, au bord de l'étang le plus profond, il tomba dans l'eau avec un puissant plouf. Au même instant, tout devint ferme. La pâte se solidifia complètement. Et partout sur la terre, il y eut des pierres et des gravats, de sorte qu'un homme, l'homme d'ailleurs qui n'existait pas encore, n'eût tout simplement pas pu marcher car il se serait fait trop mal. C'est alors que l'ange, pour la première fois, se transforma dans sa chute. Il avait des ailes de fer et observa la terre. Puis Dieu, encore une fois, fit jaillir beaucoup d'humidité sur la terre. Tout redevint marécage, lac et mer. Or, cette humidité sécha au soleil. Et en bien des endroits, une surface lisse apparut. Mais il y avait aussi des montagnes désormais, parce que le grand jaillissement avait balayé le sable et avait creusé des sillons et des plis, des montagnes précisément. Lorsque c'est moi qui fais jaillir, il n'y a que des petites rigoles, des petits lacs. Mais lorsque c'est Dieu qui fait jaillir, alors là, il y a des montagnes. Et alors l'ange, qui marchait ici-bas, fit fondre ses ailes et s'en débarrassa. Et l'ange fut comme un homme. Or, il y avait encore des grumeaux sur terre, comme une mayonnaise. Ça collait. C'est à partir de cette matière que les hommes se fabriquèrent. Tout d'abord, le monsieur qui s'appelait Bateau. Ils se fabriquèrent, ils furent tout simplement. Ça veut dire que Dieu ne les a pas créés. Hein. L'ange, qui lui aussi était devenu homme, n'avait qu'assisté au spectacle, ils se fabriquèrent selon l'allure qu'il avait. Puis, les hommes bâtirent des jetées, dressèrent nombre de monuments et d'hommes de fer avec des ailes largement déployées. Mais ce fut beaucoup plus tard, peu de temps avant qu'ils n'inventassent les phares. Voilà, j'ai lu l'entièreté du texte.
Magnifique.
Complètement surréaliste, ouais. Magnifique. Hein, voilà.
Surtout, ça se termine vraiment. Ouais. On avait dit restaurer l'énergie du désir, mais c'est vraiment la lumière, quoi, les phares.
C'est magnifique. Ouais. Hein. Et les phares, c'est Baudelaire hein, aussi. Ouais. Le fameux poème de Baudelaire qui s'appelle Les phares.
Mais d'ailleurs, vous avez choisi un texte de Baudelaire, non? Pas du tout.
Je lis tout de suite.
Moi, je sais pas, c'est juste petit goût de la transition.
Je vais vous en lire qu'un tout petit bout. Alors, Baudelaire, grand penseur, grand traducteur, grand poète et grande passion de Benjamin. Donc il y a beaucoup de ces textes des Fleurs du Mal qui ont été traduits en allemand par Benjamin très tôt. C'est le poème qui s'intitule Réversibilité et je lis juste le début si vous êtes d'accord. Mmh. Ange, plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse, la honte, les remords, les sanglots, les ennuis et les vagues terreurs de ces affreuses nuits qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse. Ange, plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse? Pour moi, ce texte, c'est une autre description de l'Angelus Novus. On est à la radio, donc on ne peut pas le montrer, mais il a un sourire tout à fait bizarre, cet ange. Il a un sourire un peu édenté, comme vous savez, les enfants, quand ils ne sont pas encore allés chez l'orthodontiste. il est enfantin et inquiétant, cet Angelus Novus. Et c'est un ange dont on imagine qu'il connaît l'angoisse. Voilà. Si c'est l'ange de l'histoire, il connaît l'angoisse, c'est évident. Donc ça fait...
Mais Baudelaire, il l'interroge. En tout cas, je ne sais pas comment se termine le poème, mais il a l'air de dire que ce n'est pas sûr. Vous êtes plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse, connaissez-vous les nuits qui serrent le cœur?
Oui, c'est une bonne question, mais moi je crois qu'il sait très bien que l'ange est là. Alors souvent, Baudelaire, quand il dit « mon ange », nous, on dit souvent « mon ange » quand on se parle à un enfant. Mmh. Baudelaire dit souvent « mon ange » quand il parle à une femme qu'il aime. Donc, c'est cette capacité d'inquiétude ou d'inquiétance, comme disait Freud, là, l'inquiétante étrangeté, qui transparaît dans tout ce qui est gracieux, dans tout ce qui est beau.
La gaieté.
Ouais. Oui, mais les enfants, c'est pas seulement des gens très gays. Hein. Les enfants, les enfants s'inquiètent, et ils ont bien raison. Voilà.
Juste par curiosité, parce que le titre est étonnant, réversibilité, c'est un sacré mot pour titrer un poème.
Magnifique. C'est un mot philosophique. Et justement, c'est un mot qui nous dit que dans tout désir, parce qu'un ange, c'est quelqu'un qui va vers, hein. Donc c'est l'envoyé de Dieu qui vous va vous annoncer en général une bonne nouvelle, quoi. Ben, c'est que dans tout désir et dans tout espoir, il y a une inquiétude et une angoisse. Mmh. C'est ce mélange. Freud avait ce terme très très fort, hein, en disant ce sentiment d'inquiétante étrangeté qu'on a, c'est quand on se sent très mal à l'aise, par exemple dans un endroit où on se dit tiens, j'ai déjà été là quelque part. Hein? C'est-à-dire qu'il y a une familiarité, mais c'est extrêmement angoissant. Et Freud dit très bien, bah, tout ça c'est lié à l'angoisse infantile, l'angoisse des enfants. Voilà. Peut-être mon sujet, c'est qu'est-ce qui se passe entre cette angoisse conformiste de l'Apocalypse et des gens qui disent tout est foutu et tout ça, mais l'angoisse, elle est là, hein, on est d'accord, et le fait qu'il faut trouver une énergie enfantine, parce que cette énergie amoureuse, elle est enfantine. Et quand même, Eros, c'est un enfant, hein, avec des ailes.
S'il y a bien une angoisse qui n'est pas conformiste, c'est celle des enfants, mais c'est ce qui la rend aussi peut-être inquiétante à penser. C'est que c'est inquiétant à penser l'angoisse d'un enfant parce qu'elle n'a même pas eu le temps de se conformer précisément.
Alors c'est là où moi je me sens très proche de ce que dit Benjamin sur l'enfance, sur le conte, sur Kafka. Mmh. Lorsqu'il dit que Kafka, il invente des contes pour dialecticiens. C'est magnifique. C'est-à-dire c'est des contes qui nous ramènent à l'enfance et qui nous obligent à devenir dialecticiens, c'est-à-dire philosophes en fait. Donc c'est ça l'enjeu. C'est de ne pas oublier, quand on est philosophe, ne pas oublier cette enfance-là. Les enfants sont confrontés à l'histoire. Et les enfants en Méditerranée, les enfants migrants, et les enfants de Gaza, et les enfants des kibbutz, et les enfants de ci, et les enfants de là. Voilà. Alors, tout dépend du temps qui nous reste pour savoir, parce que là, j'ai deux pages de Kafka assez longues. Donc, c'est une page du 25 juin 1914 du journal de Kafka. Donc, c'est un journal. Alors, on se dit qu'il raconte sa vie. Du petit matin jusqu'au crépuscule, j'ai fait les 100 pas dans ma chambre. La fenêtre était ouverte. C'était une chaude journée. Le bruit de la rue étroite envahissait la pièce en permanence. Je connaissais les moindres détails de la pièce pour l'avoir observée en tournant en rond. J'avais promené mes regards sur tous les murs. J'avais étudié les motifs du tapis et ses traces d'usure dans leurs moindres ramifications. Quant à la table, au milieu, je l'avais mesurée de nombreuses fois en écartant les doigts. J'avais souvent montré les dents au portrait du défunt mari de ma logeuse. Vers le soir, je suis allé à la fenêtre pour m'asseoir sur l'allège basse. Et là, par hasard, j'ai, pour la première fois, regardé tranquillement depuis cet emplacement vers l'intérieur de la pièce, en montant vers le plafond. Enfin, cette chambre, tant éprouvée par moi, s'est mise à bouger. à moins que je ne m'abuse, à commencer par les bords du plafond blanc ceint de discrètes moulures en stuc. Des parcelles d'enduit se sont détachées et, comme par hasard, sont tombées tour à tour sur le plancher d'un coup sec. J'ai tendu la main et quelques-unes y sont tombées aussi. Je les ai jetées derrière moi dans la rue par-dessus ma tête sans même me retourner tant j'étais captivé. Les fissures là-haut n'avaient pas encore de continuité, mais on pouvait déjà en imaginer une plus ou moins. J'ai pourtant renoncé à ces jeux quand un violet bleuâtre est venu se mêler au blanc. Ça partait du centre, du plafond, resté blanc, d'un blanc qui était même quasi étincelant, où une misérable lampe à incandescence était fichée tout contre le plafond. C'était toujours par à-coup que la couleur, à moins que ce ne fût une lumière, mordait sur le bord, désormais assombri. On ne tenait plus compte de l'enduit qui tombait, détaché comme par la pression d'un outil manipulé avec une grande minutie. Et là, les teintes jaunes, jaunes d'or, ont pénétré le violet par les côtés. Mais le plafond ne s'est pas coloré pour autant. Ces teintes le rendaient vaguement translucide. Autour de lui, des choses avaient l'air d'être en suspens, sur le point de le transpercer. On voyait presque leur manège qui se dessinait. Un bras s'étendu. Un glaive argenté a oscillé. C'était pour moi, il n'y avait aucun doute, une apparition qui se préparait et elle allait me libérer. J'ai sauté sur la table pour tout préparer. J'ai arraché la lampe ainsi que sa douille de laiton. Je les ai jetés par terre, puis redescendu d'un bond, j'ai poussé jusqu'au mur la table qui était au milieu de la pièce. Ce qui voulait venir pourrait donc tranquillement se poser sur le tapis et m'annoncer ce qu'il devait annoncer. À peine en avais-je fini que le plafond a éclaté pour de bon. D'une grande hauteur que j'avais sous-évaluée, un ange. Un ange est lentement descendu dans la pénombre, drapé de voiles d'un bleu violacé, retenu par des cordons dorés, sur de grandes ailes blanches d'un éclat soyeux, le glaive brandi à l'horizontale par son bras levé. « C'est donc un ange !» ai-je pensé. Il vole vers moi toute la journée, et moi, incrédule comme je suis, je m'en suis pas aperçu. Et le voilà qui va me parler. J'ai baissé les yeux. Quand je les ai relevés, l'ange était encore en suspens, assez bas sous le plafond, qui s'était refermé, sauf que ce n'était pas un ange vivant, mais une simple figure de proue peinte comme celles qui sont accrochées dans les gargotes de marins. Bah, rien de plus. Le pommeau du glaive était équipé pour accueillir des bougies et recueillir les écoulements de cire. Moi qui avais arraché la lampe, je ne voulais pas rester dans le noir. Ayant encore une bougie, je suis monté sur un siège pour l'empaler sur le pommeau du glaive et l'allumer. Puis, je suis resté jusqu'à la tombée de la nuit à la faible lueur de l'ange. C'est sublime.
Bah dis donc.
Magnifique, hein.
Et c'est marrant parce que ça termine la sélection donc de textes du moment que vous avez décrit George Didier Huberman comme étant à la fois ce qui vous intéresse et ce vers quoi vous allez. Bon, on peut aisément voir revenir tout le temps cet ange, quoi. Là, ça se termine aussi par la faible lueur, d'un seul coup l'ange et la lumière se confondent, et tout à l'heure on termine avec le phare, mais il me semble que presque plus que l'ange, c'est ce qui arrive, enfin ce qui annonce l'ange dans les mots de Kafka, c'est ce qui voulait venir, allait pouvoir venir, et m'annoncer ce qu'il avait à dire.
Et ça fait craquer le plafond.
Ouais.
Et ça fait des gravats.
Mm.
Ben voilà.
Il est prêt. Non mais c'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a quelque chose où il est prêt à accueillir, quoi.
Alors, je vous dirais que ce texte, je l'ai repéré Et il va...
C'est quoi la date, déjà ?
1914. Ce texte va intervenir, enfin, je ne sais pas, je vais au moins le citer, mais je vais vous dire, c'est la première fois que je le lis intégralement. Je l'ai repéré comme ça, l'ange, vous voyez, j'ai entouré là sur mon livre. Mais tout ça, je ne l'avais pas lu en détail. Je viens de le lire pour la première fois.
Ça craquelle.
Et c'est magnifique.
C'est vraiment la chambre qui craquelle.
C'est magnifique. Comment vous dire ? C'est pas grand-chose, un ange, à la faible lueur de l'ange. Donc, ne pas trop attendre.
Oui, c'est ça, c'est pas le Messie.
Ce
quoi.
Qui vient du ciel. Voilà. Et la politique se fait pas avec ça.
Merci beaucoup, Georges Didier Berman. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir ouvert votre bibliothèque. Merci pour ces lectures.
Merci à
et
vous.
Et ce partage. We aim for the air. One wing. The other gets us there above the dirt until we one day unfazed we become the earth. La prise de son aujourd'hui, c'était Alexandre James, au mixage Florent Bujon et à la réalisation Colin Gruel. Vous pouvez retrouver toutes les références des textes évoqués par Georges Didier Berman ainsi que leurs traductrices et traducteurs sur la page du Book Club. C'est une page où vous pouvez aussi découvrir l'ensemble de nos portraits de bibliothèque. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club. Et voilà la rue, et voilà la lumière.
Mm-hmm.